Rick a dit au frère, je me suis posé la question si c'était bien moi.
Recording in progress.
Il y a un frère qui m'a dit, toi, quand tu viens de la chair, tu poses toujours une question. Alors, j'ai une question. Quelqu'un a-t-il du feu pour moi ce matin? C'est pas une question piège, hein? On dirait. Ça vous est déjà arrivé, quelqu'un se présente à vous et vous dit, j'ai une cigarette, vous avez du feu? Non? Ah, d'accord. Et vous dites non, je ne fume pas.
Voilà.
Mais nous avons le feu en nous, n'est-ce pas?
Ouais.
Et donc tous, vous devriez vous battre pour me donner du feu ce matin. Allô? Alors des fois, on se dit, mais lui, il fume. Ou c'est un oubli de sa part, ou son briquet ou sa boîte d'allumettes, ou c'est de la négligence. Que si tu comptes sur les autres pour qu'on te donne du feu, tu ne seras jamais allumé. Il y a une expression chez nous aux Antilles qui dit « chaque bête a fait lui-même pour l'homme yo ». C'est-à-dire chaque lucioles a sa propre lumière, sa propre lampe. Et plus tu vas attendre sur l'autre, moins tu vas y arriver. Je tire ces adages d'une parabole de Matthieu, chapitre 25, que vous connaissez tous. Je vous invite à lire. Les questions du royaume des cieux, parfois dans certaines versions, vous avez le royaume de Dieu. C'est la même chose. Et je lis dans la version La Colombe. Alors, c'est Jésus qui parle. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri : voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles y allaient, l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec l'époux au festin de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Sous-entendu, s'il te plaît. Mais, dans la vie, il y a toujours un mais ou des mais. L'époux répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Terrible, hein? Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Et en descendant ce matin, en venant ici, on discutait, on se disait que souvent la période de vacances est une période dite de relâchement. On ne lève pas le pied, on lève les pieds. Parce qu'on a donné. Donc, relax. Est-ce une bonne attitude?
Non.
À chacun de répondre. Mais il est question ici d'une parabole. Une parabole, c'est quoi? Pour dire simple, c'est une comparaison, une histoire de la vie courante qu'on prend. Et c'est Jésus qui a institué cette tendance à enseigner par parabole. Et nous-mêmes aussi, nos parents, nous avons parlé en parabole dans le but inverse. C'est-à-dire pour ne pas se faire comprendre par les petits qui écoutent. Ce sont des homards, ils ont des antennes. Ils écoutent, ils captent tout et ils ont compris de qui on parle. Donc, on parle en parabole. Mais Jésus parle en parabole pour se faire entendre et se faire comprendre. Donc, il prenait des histoires, des illustrations de la vie de tous les jours pour faire comprendre ce qu'il voulait faire passer. C'est ainsi, par exemple, il disait, je suis la porte des brebis. C'est une image, c'est une comparaison. Il n'est pas une porte. Je suis la porte des brebis, si la brebis va entrer, elle va ressortir, etc., etc., et elle sera sauvée. Et nous avons tous et toutes des paraboles dans notre vie et que seuls nous, avec notre conjoint, il suffit d'un regard, on a compris. N'est-ce pas? Cette parabole s'inscrit dans le cadre des derniers discours de Jésus sur la fin des temps. Et nous l'avons maintes et maintes fois entendu, prêché ou lu, et nous connaissons l'histoire. Et Jésus enseignait sur les malheurs et les persécutions à venir. J'ai envie de dire, nous sommes en plein dedans. Quoique, au début, les premiers disciples y croyaient aussi. Mais suite à une question des disciples, Seigneur, quand et comment ces choses-là vont arriver, Jésus raconte cette histoire-là. Et le non même, le cœur même du message, c'est veiller en attendant. Soyez prêts, toujours prêts. Sommes-nous prêts? Allô? Sommes-nous prêts? Pas que c'est les vacances, on se relâche, mais Jésus risque d'arriver pendant justement ce moment de défoulement, d'orgie, de boire, de manger, grillade partie, domino partie, pétanque partie, tout. Relâche, c'est les vacances. Jésus dit veiller en attendant. C'est-à-dire restez toujours sur vos gardes. C'est quand a commencé la fin des temps? On ne sait pas. Depuis la venue de Jésus, oui, il a commencé à parler de son royaume. Mais la mort et la résurrection de Jésus-Christ, voire même son ascension, marquent l'accomplissement de tout ça. C'est-à-dire, il était venu, il a dit, tout est accompli, c'est plié, maintenant, préparez-vous. Et il avait dit à l'époque, voici, je viens. Bientôt, et l'Église avait répondu, oui, Seigneur Jésus, viens bientôt. Viens bientôt. C'est quoi ce bientôt? Ça fait 2000 ans passé. Vous voyez, quand nos parents, nous partons, on dit, mais tu reviens quand? Bientôt, tout à l'heure, tout de suite. C'est imminent, c'est brûlant, c'est proche, et nous sommes plus près du retour de Jésus-Christ que ceux qui nous ont précédés, n'est-ce pas? Et au chapitre 24, les deux premiers versets, chapitre qui précède de notre texte, Jésus fait comprendre que l'écoulement, versets 2 et 3, comme Jésus s'en allait, 1 et 2, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais Jésus leur répondit, voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Vous regardez les informations, vous avez regardé la Syrie hier soir, vous regardez Gaza, vous regardez la Turquie et puis bien d'autres endroits, mais c'est l'effondrement, tout s'écroule. Le feu est déjà allumé, les bâtiments tombent, nous sommes en plein dedans, au cœur même des événements de la fin des temps. La question est, qu'est-ce que l'Église fait? Est-ce que l'Église se prépare ou bien l'Église se laisse aller dans la mouvance. Et la grenouille dans l'eau froide, là, elle dit tranquille. L'eau est froide, mais ce n'est pas qu'il y a le feu en dessous. Mais le feu est déjà allumé. Et cette histoire de fin des temps que nous appelons tous les jours fin des mondes, fin des temps, nous donnons toutes sortes de noms, fait comprendre que le monde est et sera marqué par des événements significatifs. Partout, nous verrons les mêmes événements, les mêmes chefs politiques qui vont se martyriser. Somme de dire, méfiez-vous. Hein. Les nations s'agitent, mais elles sont une. Vous savez pourquoi? Il y a un même chef qui les dirige. Il ne faut pas se laisser leurrer. Hein. Et l'Ecclésiaste disait déjà à l'époque, ne soyez pas étonnés de voir que les nobles couvrent les nobles. Ce n'est pas ce qui se passe. Politiquement parlant, c'est ce qui se passe. Les petits vont payer pour les grands. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et face à la multiplication de séductions, de déviances spirituelles, de souffrances, de persécutions, de déviances morales à tout niveau, Dieu nous invite à être sur nos gardes. Quand vous verrez ces choses, mettez-vous à pleurer. Qu'est-ce qu'il dit? Au contraire, réjouissez-vous. Levez la tête. Parce que votre Seigneur revient. On devait se réjouir. Mais nous avons l'air tristes. Je vous demande du feu, vous n'avez pas de feu. Ça devait nous brûler là. Jésus revient. Et quand nous venons dans nos assemblées, c'est pour nous réjouir. C'est pour dire, Seigneur, oui, viens bientôt. Voir tout de suite. Et quand un enfant veut quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il tape du pied ou des pieds. Et il pleure et la maman cède. Je dis souvent à la maman. Hein, cède. Mais d'un côté, il y a un tableau qui est très sombre, très négatif. Et heureusement, il y a un autre tableau positif à côté. L'évangile sera annoncé à toutes les nations. Et c'est ce qui se passe. Il y a des réveils partout, là où on n'y pense pas. Et la Bible dit, l'évangile sera prêché à toutes les nations. La suite? Alors viendra la fin. Nous sommes en plein, nous sommes au cœur de cette séquence dite fin des temps. Et Dieu seul connaît la fin, ou le jour dit de la fin. F-I-N. Et Jésus, dans notre texte du jour, attire notre attention sur l'attente dans la vigilance, ou l'attente tout en étant vigilant. Je peux attendre, hein? Et ça nous est arrivé d'attendre, au point de prendre sommeil, de ne plus espérer, non? Ah, c'est horreur, ça. Vous attendez quelqu'un, vous ne voyez pas venir cette personne-là, il vous arrive de prendre sommeil à force. J'aimerais vous dire, parce qu'on ne se connaît pas tous, j'ai horreur d'attendre. La patience, ce n'est pas mon truc. Et on m'a dit que j'étais militaire. Ah, je peux laisser durer une situation, je suis patient. Mais si tu as donné rendez-vous à 9h, sois là à 9h. Parce que je suis là à 9h moins 10. Mais nous ne sommes pas tous pareils. Mais Jésus n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Et nous avons le sentiment, Dieu tarde, Dieu tarde, Dieu tarde, il ne tarde pas. Il peut nous surprendre. Soyons prêts. La résurrection, après la résurrection et l'effusion du Saint-Esprit, ce qu'on appelle la Pentecôte, une question se pose à nous, chrétiens. Quelle est la prochaine attente? Vous attendez quoi? Après la Pentecôte, qu'est-ce qu'il y a? Vous attendez quoi? Mais oui, le retour du Christ. Mais qu'est-ce qu'il y a avec le retour du Christ? Oui, oui. En plein dans notre texte, les noces de l'agneau. C'est de ça que parle notre texte, non? Il est question de jeunes filles, demoiselles d'honneur qui vont à un mariage et attendent l'époux. Parce que nous sommes invités à des noces. Allô? Ah, vous ne saviez pas? C'est pour ça que vous êtes habillés comme ça. Mais il y a des noces grandioses qui nous attendent là-haut. Et j'aime à me consoler chaque fois Dieu prend un bien-aimé. Dieu en a besoin pour préparer les couverts, mettre la table. Oui, mais il faut du monde, et il y aura du monde. Hein. On ne va pas se bousculer parce que chacun sa place. Mais c'est quelque chose qui sera grandiose. Et Dieu attend que chacun soit prêt. Il ne faut pas dire, excuse-moi, je mets mes chaussures. Tous les dimanches matin, c'est la même chose chez nous, n'est-ce pas? Quand il faut partir pour aller au culte? Oui, attends. Maquillage qui ne prend pas fin? Ou c'est à ce moment-là qu'on se rase? Ok, il faut donner un petit peu un coup aux hommes aussi. Hein? J'ai grandi avec des parents adventistes par endroit et ils étaient toujours prêts le vendredi avant 18h. Tout était aligné devant. Chaussures, chemises, chaussettes, vestes, tout. Après 18 ans, on ne faisait rien pour le lendemain. Mais c'était le sabbat. Et ça m'a toujours donné cette leçon-là de fidélité, d'obéissance au Seigneur à ce niveau-là. Ce n'est pas le dimanche matin qu'on va repasser la chemise. Ou qu'on cherche quelle chemise mettre. Aïe! Bon, bref. Mais le Seigneur dit, seuls ceux qui auront pris leur disposition pour être prêts, qui auront veillé correctement, participeront aux noces. Il ne suffit pas d'être invité, il faudrait être prêt le jour. Il nous faudra prendre le temps de nous préparer pour que nous ne soyons pas surpris. Être vigilant dans l'attente, c'est un peu l'ordre qui est donné ici. À chaque région, ça a sa tradition de noces. Vous savez, le mariage en Afrique, en Haïti, en France, ce n'est pas pareil. Aux Antilles non plus. Il y a des coutumes. Bon. Ici, la coutume orientale se célébrait dans la fraîcheur de la nuit. L'époux s'avançait avec son cortège de demoiselles d'honneur. Il faut les comprendre ici comme ça, pas vierge. Hein? Demoiselles d'honneur, on dit. Le terme littéral, c'est ça. Et souvent, on a traité ou traduit de folle. Elle n'était pas folle. Comprenez, elles étaient imprudentes. Et puis les sages n'étaient pas forcément sages à l'extrême. Elles étaient prudentes. Et donc, les femmes ici, les demoiselles d'honneur, étaient préparées à attendre l'époux sur son passage et l'accompagner pour aller accueillir, chercher l'épouse. L'épouse ici, si vous comprenez la parabole, c'est l'Église. Mais, il y a un mais, certaines demoiselles d'honneur, cinq, ont pris avec elles de l'huile pour les lampes. Alors, ce n'était pas des lampes machin, hein. On utilisait, on tournait un bouton, non, il fallait ajouter de l'huile, c'est comme les flambeaux là chez nous aux Antilles, en Afrique. Il fallait de l'huile pour maintenir la lampe allumée. Et les autres en avaient pris. Une chose est certaine ici, dans notre texte, nous découvrons des failles chez les 10. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas assez d'huile, mais avant il n'y avait pas assez d'huile pour 5, les 10 se sont endormis. Ce n'est pas 5 qui se sont endormis, mais les 10. Oui, on a beau être spirituel comme on veut, on s'endort quand même. Face aux événements de la vie, on se laisse entraîner par le tourbillon des séductions, de tout ce que nous voyons autour de nous, entendons, et finalement nous oublions l'essentiel. Restez vigilants. Et si vous utilisez vous travaillez sur des machines, on vous dira toujours de faire attention. Vous pouvez vous blesser. J'ai visité à Marie Galante, l'usine là, où on fait le gâteau cacabef que je n'ai jamais eu. Il y avait un coutras posé sur la machine. Et le mec nous a demandé, le gars qui nous faisait la visite, nous a dit à quoi servait ce coutras. On est pour couper la canne. Elle a dit oui, mais encore. Mais si le gars qui faisait passer la canne s'endormait, c'est tout le corps qui passait, donc on lui coupait le bras. Pas dormi. Ne dormons pas. Parce que le temps est plus que pressé. C'est comme si quelqu'un part faire une randonnée de 10 km et il oublie sa gourde. En chemin, tu fais quoi? Tu dis, tu as de l'eau? Oui, me reste une goutte. Est-ce que tu vas partager ta goutte? Et on peut reprocher bien des choses à ces demoiselles d'honneur qui étaient dites sages, prudentes. Les 10 se sont endormis. Pourquoi? Le texte dit l'époux tardait. Vous connaissez les mariages. Vous savez comme moi que les mariés n'arrivent jamais à l'heure. Un mariage ne commence jamais à l'heure. Il n'y a que les enterrements qui commencent à l'heure. Et donc, les demoiselles d'honneur ont eu des répétitions avant. N'est-ce pas? On a préparé la chose pour que ça soit carré, bien fait. Donc, elles savaient approximativement à quelle heure l'époux allait arriver. Mais l'époux tardait. Dieu nous a dit en Jésus-Christ, je viens bientôt. Ce bientôt, c'est quoi? Je me souviens, j'étais encore au collège, les témoins de Jéhovah annonçaient la fin du monde. Mais ils ont une sorte de prophétie progressive, donc c'est tout le temps. Il faut remanier. Et tout le monde achetait, tout le monde faisait, tout le monde se préparait parce que la fin du monde était là. Le texte ne nous dit pas combien de temps ils ont attendu. Parce que 5 minutes, c'est long. Mais attendez une demi-journée, une journée, une nuit. Veillez parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. La négligence ou le manque de vigilance nous conduit et nous conduira toujours à commettre l'irréparable. Et ça nous est arrivé à tous. Hein. On met des lentilles sur le feu et puis on va se faire une petite pause. Ne jamais faire ça. Surtout dans une cocotte minute. C'est arrivé à une de nos sœurs. Elle est arrivée du travail, elle a mis des lentilles sur le feu et dit, bon, je vais faire une basse tête, comme on dit. On ne sait pas combien de temps elle s'est endormie. Mais elle a été réveillée par l'odeur de la fumée dans l'appartement. Elle s'est réveillée en sursaut, et c'est elle qui raconte l'histoire. Elle a ouvert la porte de l'appartement et a balancé la cocotte en bas. Et quand elle s'est retournée, tout l'immeuble était sur le balcon en train de regarder, mais d'où ça pouvait venir. Donc tout le monde savait qu'il y avait un repas qui brûlait autour, sauf elle, à l'intérieur. Restez vigilants. Veillons. Ne pas s'endormir devant la télévision parce que on dit non, non, je regarde. Hein. On est arrivé. Non, je regarde, mais on pêche les lambis. On est parti. Non, je veille, je suis là, attentif. Et combien de fois on a empêché à des gens de prendre la voiture parce qu'il fait trop chaud, parce que tu as trop bu. On est parti quand même et puis ça a été l'accident. C'est irréparable. Et donc, nous devons non pas dire ça n'arrive pas aux autres. Ça peut arriver à moi. Et souvent, j'ai entendu les gens dire, les chrétiens dire, ça ne va pas arriver, moi. Ça ne va pas m'arriver. Méfions-nous. Méfions-nous. Veille sur toi-même. Le sommeil peut être un ennemi. Je vous invite à lire, sans quitter notre texte, Romains chapitre 11. Gardez notre texte sur le coude, Romains chapitre 11. Et c'est l'apôtre Paul qui dit à partir du verset, Romains chapitre 13, pardon, 13 verset 11. J'ai fait l'inverse. Romains 13 verset 11. Vous savez d'autant plus en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, ce n'est pas tout à l'heure, c'est maintenant. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour, c'est-à-dire le jour de la manifestation du Christ, approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Demain, c'est un autre jour. Restons attentifs, restons vigilants. C'est l'heure de se réveiller de son sommeil. Et méfions-nous, Satan, il est plus rusé qu'on ne croit. Du temps des apôtres, les disciples s'attendaient au retour du Christ, déjà. D'où la question de notre texte, quand ça va se passer? D'autres n'espéraient plus. Et disaient, mais depuis que nos pères sont morts, on n'a fait que ça. Attendre, attendre, attendre. Et l'attente est longue. Et on se dit, off, après tout, espoir au mari papa. On est arrivé à dire, comme on me l'a dit cette semaine encore, Dieu a créé le monde et puis on ne sait pas où il est. Il est parti. Il dit, ah bon? Il m'a dit oui, on ne sait pas où il est. D'accord. Je n'ai pas cherché à envenimer la situation parce que il était fatigué. Mais la patience, Dieu est un Dieu de patience, il use de patience. Et la Bible dit, un jour pour lui est comme 1000 ans. Ne croyez pas qu'il tarde dans l'accomplissement de son retour. C'est ce que nous dit 2 Pierre chapitre 3, versets 8 et 9. Mais Dieu use de patience, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à un changement de mentalité, à une autre manière de voir les choses. La patience, ce fruit de l'esprit, combien sommes-nous ici à la posséder? On n'est pas patient. Hein? On est fatigué, fatigué d'attendre, fatigué face à toutes ces injustices autour de nous. Et puis, Seigneur, tiens, j'avais ça à te dire. Je suis fatigué d'attendre. Depuis le temps, je te prie pour le salut, le retour à toi de mon fils, de ma fille, de ma famille. Depuis le temps, je te prie. Tu fais quoi? Ça ne nous est pas arrivé de parler comme ça à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu as dit si la bénédiction t'en attend là, mais quand même. Active. Parce qu'on trouve le temps long depuis longtemps. Depuis 10 ans, je prie pour un tel. 10 ans, c'est quoi? Quand un jour est comme 1000 ans pour Dieu. J'ai vu des gens se convertir à la mort d'un proche. Les gens ont prié toute leur vie pour la personne et c'est à la mort que la personne s'est convertie. Et toujours à l'évangile. Donc notre temps n'est pas le temps de Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Et il ne se trompe pas. Et il n'a pas d'excuses à nous faire. Vous comprenez? Dieu n'est pas une sorte de distributeur automatique. On appuie et puis tchac, boum. Hein? C'est ce qui se passe. Mais Dieu est Dieu. Les disciples conviés à Gethsémané pour encourager Jésus qui avait un petit peu besoin de ce soutien-là pour affronter la croix se sont aussi endormis. Et la Bible dit profondément. Il y a des moments où en 10 minutes, vous avez dormi profondément. Hein? Non? Vous êtes là, vous parlez, vous dites, mais je te parle, tu dors. Non, non, mais j'ai déjà dormi 5-10 minutes profondément. Je ne sais même pas ce qui a été dit. J'ai dit, heureusement, Dieu est là. Il nous réveille. Les disciples se sont endormis alors que Jésus en avait besoin. Aujourd'hui, il nous arrive, l'Église d'aujourd'hui dort. On n'est pas toujours d'accord, mais l'Église dort, hein. Il y a tellement de choses qu'on aurait pu faire. Tellement de choses qu'on ne fait pas. On est assis dans une sorte de confort. Jusqu'au bout, on se dit, mais Dieu peut-il compter sur nous? Et nous, il nous arrive de le chanter. Hein? Dieu peut-il compter sur nous? Et le pourra-t-il? Jusqu'au bout. Notre fidélité n'est pas la fidélité de Dieu. Et Dieu nous bénit dans sa fidélité en dépit de notre infidélité. Dieu n'a pas d'excuse à nous donner. Or, quand on regarde bien le texte, l'époux n'était pas en retard. L'époux arrivait avant. Et Dieu fait en sorte que nous soyons toujours surpris parce que nous faisons monter vers lui des prières, mais nous ne sommes pas toujours prêts à recevoir les réponses. Souvenez-vous de Marie en prison, de Pierre en prison, et quand on vient sonner à la porte pour dire Pierre est sorti, Pierre frappe à la porte, il dit, mais non, ce n'est pas Pierre. Ils étaient étonnés. Dieu peut nous étonner parce que rien n'est étonnant de sa part. La parabole d'aujourd'hui nous rappelle que tous, nous pouvons nous endormir et être surpris. C'est comme celui qui a bâti sa maison sur le sable et qui se dit haut et fort, le cyclone qui va arracher ça n'est pas né. Vous voyez, quand Dieu dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, c'est ça. Le verset 5 est terrible. Comme l'époux tardait, elle s'assoupire toute. Et c'est alors qu'une voix se fit entendre. Voici l'époux. Sortons à sa rencontre. Voyez la différence avec voilà l'époux. Si on dit voilà l'époux, c'est que l'époux est déjà venu, ou pas. Voilà, c'est déjà fait. Vous comprenez ce que je dis? Voici l'époux, ça veut dire il arrive. Mais voilà l'époux qui s'en va. Là, c'est plus terrible. Hein? On s'est assoupi, on s'est laissé avoir. Depuis la fin du 19e siècle, les chrétiens ont perdu de vue le retour du Christ. Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein? Ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, on n'attend pas, on se dit, bon, il viendra quand il viendra. Mais il peut venir aujourd'hui, pas demain. Allô? C'est pourquoi il dit, garde ta lampe allumée. Avec dans l'ancienne alliance, quand il fallait offrir un holocauste, vous pouvez lire ça dans Lévitique chapitre 6, au tout début, le sacrificateur devait veiller à ce que la flamme ne s'éteigne pas, nuit et jour. Nous devons garder notre flamme allumée. Nous sommes lumière d'ici-bas, n'est-ce pas? Et si une lampe n'a pas d'huile, elle sera quoi? Pas d'huile, pas de royaume. J'ai envie de dire pas de royaume, pas d'huile. Mais c'est ça. Et c'est le Seigneur qui offre l'huile. Amen. C'est vrai que si on avait été parmi les 10 demoiselles d'honneur, 5, ça j'aurais dit, mais allons partager, allons leur donner un petit peu. C'est pas ce que vous aurez fait. Mais si le sentimentalisme évangélique, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ben, il dit, bon. Mais les autres ont dit, non, on n'aura pas assez. Pourquoi? Ils ont eu tort? N'avons-nous pas tous été avertis que Jésus revient bientôt? Allô? Peut-être qu'il y a certains qui ne sont pas au courant. Hein? Et l'époux qui vend de lui aurait pu dire, c'est pas grave, venez prendre. Mais l'époux dit plus terrible encore, je ne vous connais pas. Ça veut dire, je suis déçu. Est-ce que Jésus aujourd'hui devait être déçu de nous, de notre comportement? Certainement. Mais ne lui donnons pas l'occasion. Et trop souvent, nous avons tendance à jeter l'opprobre sur l'autre. Mais ici, l'exhortation est individuelle. Chacun doit veiller sur sa lampe. Veille sur toi-même et sur ton enseignement afin de ne pas être disqualifié demain. Veille sur ta lampe, dit l'esprit de l'Église, à l'Église quoi, d'Éphèse, sinon je viendrai et je déplacerai ta lampe. Mais il ne sert à rien. Et aujourd'hui, le Seigneur nous invite à ne pas perdre notre premier amour. La sentence est terrible. L'époux voit le comportement de ces cinq demoiselles d'honneur imprudentes comme une trahison. Vous n'avez pas suivi le règlement, vous n'avez pas été vigilante. J'ai donné des consignes lors de la répétition. Vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas été prudente. Je ne peux rien faire pour vous. Vous savez, dans nos cultures, nous sommes différents. En France, vous allez arriver, on va vous dire, je ne peux rien faire pour vous, monsieur, et puis on a tourné le dos. Aux Antilles, on va dire, restez là, je vais faire quelque chose pour vous. Et parfois, on peut se mettre dedans parce qu'on fait une entorse au règlement de l'entreprise. Veillons. Soyons attentifs. Nous sommes avertis, tout comme du temps de Noé, le temps viendra où c'est Dieu lui-même qui fermera la porte. Et personne, parent, ami et allié, ne pourra faire ce que Dieu a dit. Dieu a dit niet. Il a fermé la porte et je n'ai pas la clé. L'huile ici nous rappelle l'onction du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Saint-Esprit qui régénère et qui sanctifie le croyant. Et la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La porte sera fermée pour tous ceux qui estimaient avoir le temps. J'aurai le temps. J'ai présenté l'évangile d'un point à un autre à une jeune dame qui venait au temple depuis longtemps. Elle m'a dit, oui, mon Dieu, j'ai déjà compris tout ça. Mes zouk là. Et il m'a dansé. Ça vous ouvre là, c'est seul médicament, nous. Mais seul Jésus, lui seul, est la source de la bonne nouvelle du salut pour quiconque croit. Il n'y a pas d'autre. Et on pourrait lui dire, oui, mais je me préparais, je mettais mes chaussures. Vous savez, on peut baigner dans la religion depuis petit, hein. Même passé par les eaux du baptême, j'ai vu ça. Fréquenter le mouvement religieux évangélique et puis ne pas être prêt. Dieu nous invite à nous préparer tous les jours. Bien aimé, la parabole des dix vierges ici nous rappelle que nous sommes tous en danger d'être séduits par le temps. Toutes sortes de séductions. Séduit par une sorte de relâchement à tout niveau, parce qu'on est fatigué d'un côté d'attendre, de donner. Et puis, quand on voit tout ce que je vois sur terre, moi, je n'ai plus envie. Les chrétiens même me déçoivent. Vous avez déjà entendu ça? Mais la réalité est là. Il y a même une double réalité. Jésus revient et il est proche. L'autre réalité, c'est que l'époux n'est jamais en retard. Il revient, on ne sait pas quand, mais il ne sera pas en retard. Ça peut être là, à la sortie du culte. Mais nous sommes tellement préoccupés par toutes sortes de choses. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Restons vigilants. Notre adversaire, le diable, rôde et il ne dort jamais. Alors, de grâce. Veillons et saisissons chaque occasion pour donner gloire à Dieu. Amen. Parce que Dieu, s'il est amour, il est aussi justice. Et quand il dit « je ne vous ai jamais connu », ou quand il dira « je ne vous ai jamais connu », la porte est fermée, j'aurais beau frapper, les hommes du temps de Noé ont frappé. Hein. Et l'eau est montée. Mais Dieu dit que la terre actuelle n'est pas réservée pour l'eau, mais pour le feu. Le feu est déjà allumé. Regardez les événements autour de nous. En France même, tout près de chez vous. Violence ici, violence là, mais c'est une sorte de feu. Et nous ne pourrons pas y échapper. Mais chez moi, au dindon de moi, ma lampe doit allumer. Rester allumé, parce que je dois veiller nuit et jour pour ne pas être surpris. Et je nous aide.